Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont, avec à mes côtés aujourd'hui Didier Crot, Arnaud Clergue et Christophe Buron. Bonjour messieurs.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour Greg.
Avec cette question qui va tomber comme un coup près, pourquoi l'ASM est-elle aussi faible à l'extérieur? C'est la question qu'on va se poser. C'est la question qu'on se pose aussi tout simplement parce que messieurs, les Clermontois s'ils ne sont pas les derniers au classement des équipes à l'extérieur dans ce top 14, en tout cas sont les seuls à ne compter qu'une seule victoire à l'extérieur en top 14 cette saison. Je dis les seuls avec l'Aviron, Bayonnais et Perpignan. C'est dire si le bilan n'est pas très bon pour les Clermontois à l'extérieur. Alors, rapide tour de table. D'après vous, pourquoi l'ASM est-elle aussi faible, Didier?
J'ose dire parce que c'est devenu une équipe moyenne. Très moyenne.
Toi, Arnaud?
C'est la réussite face au perche, la réussite au tir au but, qui fait que tu peux pas gagner de match à l'extérieur avec un taux de réussite comme ça.
Toi, Christophe?
C'est l'inconstance sur 80 minutes, l'incapacité à gérer temps fort et temps faible.
Alors messieurs, les Clermontois qui ont été défaits à Bayonne ce week-end 21-18, nouvelle défaite à l'extérieur pour les Clermontois dans une rencontre pourtant où c'était pas si mal parti que ça pour Clermont.
Ah ouais, moi tu m'aurais dit à la 65e minute que Clermont allait perdre ce match, j'aurais pas mis 10€ sur la table. Hein. Il faisait un match plutôt intelligent, je trouvais jusqu'alors, un match maîtrisé, un match où ils avaient marqué des points quand il fallait, et je voyais pas cette équipe de Bayonne revenir dans le match.
C'est quoi le tournant? C'est le double carton jaune?
Moi, le premier tournant pour moi, j'y reviendrai, c'est oui. La pénalité manquée par Puisson qui était réalisable, qui était dans ses cordes et qui aurait permis à l'ASM de passer à plus 15 à la 60e minute à peu près. Et à plus 15, pour moi, c'était terminé.
Qui reste dans le thème de ce que tu veux développer. Voilà. Ça tombe bien.
Mais il y a une conjugaison de facteurs, mais qui traduisent malheureusement la fébrilité, la friabilité de cette équipe qui s'étiole dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient perturber sa marche en avant à l'extérieur, hein, puisque souvent à domicile ils arrivent à compenser, mais à l'extérieur dès qu'il y a quelque chose qui vient compenser, cette équipe s'étiole et perd les pédales malheureusement.
Alors même qu'il reste une journée à jouer à domicile pour les Clermontois, vous savez combien ils sont au classement à domicile? Ils sont 7e.
7e, ouais.
Donc c'est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est pas si mal que ça en tout cas, à domicile.
Bah, c'est ce qui explique. Ils sont combien à l'extérieur? Ils sont.
Dans les derniers.
Là, ils sont 12e.
12e, ouais. Ouais, ouais. Ça fait une moyenne. Donc ils sont. Et encore, je crois qu'ils ont 5 points de bonus défensif qui sauvent un peu le.
Ouais, ils ont 9 points, effectivement.
Je crois que c'est la seule équipe qui a 12 défaites à l'extérieur. Il me semble. Pour l'instant.
Alors attends, faut que je vérifie ça.
Avant la dernière journée.
Il y a Bayonne aussi, je crois.
Non, Bayonne n'a pas encore perdu 12 matchs.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, Christophe. C'est la seule équipe qui a 13 défaites à l'extérieur. 12 défaites à l'extérieur. Pour l'instant, Perpignan en a 11 et Bayonne 10. Bayonne a un nul en plus.
Pour moi, il y a un manque de confiance et aussi de leadership qui fait que quand ils prennent le score, parce que c'est pas la première fois qu'on assiste à un tel scénario, hein, où ils perdent dans le dernier quart d'heure, dans les derniers instants.
Il y a en tout cas, pardon, je te coupe, mais il y a quelques matchs où les Clermontois sont pas si loin que ça au final en termes d'écart, puisqu'ils ont 5 points.
Ils sont jamais très loin. Enfin, ils ont été à plusieurs reprises, ils étaient vraiment pas loin de l'emporter. Mais au moment où on sent que ça peut s'inverser en faveur de l'équipe qui rencontre, il manque ce truc qui fait qu'on resserre les boulons, qu'il y a des leaders sur le terrain qui vont dire. On arrête les conneries, on fait ci, on fait ça, et c'est là où ça peut partir en vrille. On l'a vu à Bayonne. Hein. Il a suffi d'un petit événement pour que ça se délite et que tout s'enchaîne derrière. Quoi.
C'est du manque de leadership sur le terrain, tu veux dire?
Ah ben trop, oui. Moi je pense, hein, oui, clairement. Et pourtant il y a des joueurs expérimentés qui font qu'on a vu faire des choses, des erreurs et des fautes grossières qui ont provoqué la cascade d'enchaînement et qui a amené cette défaite à Bayonne.
Ce qui est aussi troublant, c'est que cette incapacité à s'exporter, elle ne date pas de cette saison. Déjà, la saison dernière, avec des joueurs expérimentés comme Parra ou comme Lopez, on avait déjà cette incapacité à bien voyager. Donc, l'analyse, elle doit être multifactorielle, quoi, parce que l'an dernier, il y avait des buteurs, il y avait des mecs comme Lopez et Parra, dont on ne peut pas dire qu'ils étaient de mauvais buteurs, mais on avait aussi enfin, cette incapacité à gérer ces matchs en déplacement, hein, puisque l'an dernier, je crois qu'il avait gagné que deux fois. Enfin,
c'est, deux, me semble.
Deux fois, donc c'était un...
Deux, Biarritz et Perpignan.
Non, et Montpellier.
Montpellier, tout à fait, oui. Et Biarritz, ce dernier.
Donc avec un bilan encore extrêmement faible l'an dernier. Quoi.
Ils étaient moins bons devant l'an dernier, je trouve. Cette année, depuis Curios est là, je les trouve plus consistants devant, voire même dominateurs souvent. Je me rappelle le match à La Rochelle, l'ASM avait plutôt dominé les débats devant. Mais il y a un délitement. Enfin, il ne s'est pas suivi de fait.
Ils ont cette incapacité à tuer les matchs, quoi. Enfin, je veux dire, à 18-6 à Bayonne, ils ont deux occasions proches des lignes. Il y a eu deux pénales touches trouvées d'ailleurs par Plisson, par la longueur de son pied. Là, s'il marque là, c'est voilà, quoi. On met l'adversaire à plus de 20 points, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de match. Et là, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas cette marge suffisante pour enfoncer le clou et pour dire à l'adversaire, bon, bah, c'est terminé, le match est plié. Et c'est ce qui fait qu'ils restent toujours dans les zones de danger et que dès qu'il y a un grain de sable, ben c'est terminé.
Alors, sans parler de grain de sable, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se dire concernant cette équipe? Elle est individuellement de niveau inégaux, on va dire, et ça fait qu'autant offensivement que défensivement, ben parfois tu payes un peu le fait de ne pas avoir un effectif uniforme, que ce soit dans les moments chauds où il faut absolument défendre ou dans les moments chauds où tu peux marquer.
Oui, puis elle maîtrise pas assez son rugby. Alors elle le maîtrise plutôt bien ici à domicile, c'est ce qui est curieux. Mais à l'extérieur, elle le maîtrise pas assez pour avoir le contrôle de ces rencontres qui se jouent sur quoi ? Ça se joue sur les fondamentaux, hein, la conquête et la défense. Ce qu'ils ont eu à Bayonne pendant plus d'une heure. Et sur le pragmatisme. Et ça, le pragmatisme, il y a des fois ils l'ont pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est Urio qui a dit qu'il y a un moment il fallait peut-être au lieu d'aller chercher toujours les pénales touches. Peut-être de prendre des points, et 3 points par 3 points, insinue un peu plus ce doute dans la tête de l'adversaire.
Construire son match, quoi.
Et là, je crois que ça va un peu rebondir sur ce que toi tu veux dire par rapport au buteur, mais ils n'ont plus cette marge qui va sur laquelle ça, s'appuyer pour tuer les matchs.
Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça, Arnaud?
Je me rappelle le premier match de la saison au Stade Français où l'ASM était dans le match et il y a Bello qui loupe une transformation qui était à 22 mètres et qui aurait permis à l'ASM de passer devant, je crois, et finalement c'était pas le cas et on commençait déjà à se dire c'est dommage de louper cette transformation, elle aurait permis, ça aurait été à 10 minutes de la fin un avantage psychologique de passer devant. Déjà là on se disait le problème de but c'est un peu compliqué, puis il y a eu La Rochelle, il y a eu, j'en passe, Bayonne, les 3 points manqués par Plisson. Il y a eu plein de matchs comme ça où on s'est dit qu'avec un meilleur taux de réussite face au but, à l'extérieur, l'ASM aurait pu gagner un match. On disait tout à l'heure, l'ASM a gagné un seul match cette saison, c'était à Perpignan.
Arnaud, parle bien dans le micro, c'était pas tout le temps entre les perches.
Oui, il y a eu un match cette saison où l'ASM a gagné, c'était à Perpignan. Bello a fait du 100%, je crois, me souvenir. Donc il n'y a pas de secret, quoi. À l'extérieur, quand t'es dans le camp adverse, il faut marquer les points. Et si tu loupes 5-6 points à chaque fois, c'est ce qui fait la différence.
C'est peut-être pas un hasard, en effet, qu'ils soient aussi mal classés en termes de taux de réussite au pied et leur classement à l'extérieur, en effet.
Question, c'est pas une question philosophique, c'est des faits que je vous demande. Qu'est-ce qui fait que quand on joue à l'extérieur, on a moins de réussite, on est moins en capacité de remporter un match? Parce que certes, il y a les matchs qu'on lâche un peu, mais on est de moins en moins dans ce rugby et les équipes vont de plus en plus chercher la gagne à l'extérieur. Non?
Oui, c'est vrai que c'est encore une particularité du rugby où il y a encore une différence. Pas d'investissement des équipes, mais d'un contexte, d'un environnement qui fait que ça met un peu plus de pression et de stratégie. C'est vrai que je pense que la stratégie, elle est peut-être différente quand on prépare un match. Enfin, je me mets à la place d'un staff à domicile par rapport à l'extérieur où les matchs se jouent souvent sur des choses beaucoup plus simples. Et il ne s'agit pas peut-être de faire du rugby. Beaucoup d'entraîneurs se déplacent en se disant le beau jeu, on va attendre. Hein, on n'a pas la marge peut-être pour le faire. Donc on va réduire et être beaucoup plus pragmatique et essayer d'être efficace, mais cette efficacité, là, il ne s'aime pas, quoi.
Ça veut dire quoi, quand on veut jouer à l'extérieur, peu importe le spectacle, on peut être un peu plus restrictif?
Quand on n'a pas trop les moyens, oui. Après, il y a des équipes qui peuvent se permettre d'envoyer du jeu, Mais la majorité dont fait partie l'ASM actuellement, non, sûrement pas. Non.
C'était plutôt bien fait, là, à Bayonne, la première heure de jeu avec Plisson, là, elle l'a plutôt bien fait, avec sa longueur de jeu au pied, occuper le camp adverse, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, l'extérieur, occuper le camp adverse. Et ça, Plisson l'a plutôt bien fait, je trouve, la première heure de jeu avec un coup de pied long, des touches bien trouvées. Enfin, c'était plutôt pas mal sur cet aspect-là du jeu.
C'est pour ça que la fin de match est d'autant plus étonnante par rapport aux 60 premières minutes.
Ouais, c'est ça.
C'est tellement caricatural.
Et parce que la première mi-temps, ils n'ont pas montré grand-chose. Hein. Ils n'ont pas fait
de
jeu ni rien.
Mais ils ont pris les points qu'il y avait à prendre. Ils ont fait le trou en deuxième mi-temps. Ou ils ont fait... on a fait un début de deuxième mi-temps rêvé, ils forcent un petit peu le trait. Mais bon, force est de constater qu'ils avaient quand même, jusqu'à la 61e, ils n'ont pas été sanctionnés une seule fois par l'arbitre. Ce qui veut dire qu'ils avaient la main sur le ballon, l'aviron était sous pression, c'est eux qui commettaient les fautes, c'est eux qui... Enfin bon, il n'y avait pas de raison.
C'était le match, ils avaient construit un bon match à l'extérieur.
Alors ce qui est un peu désolant, je trouve, moi, c'est que ce n'est pas une équipe qui lâche qui s'incline en lâchant, en baissant les bras ou en étant moins bien physiquement. Ils gèrent plutôt bien leur temps faible, d'ailleurs, je trouve, dans ce match-là. Sauf qu'il y a un moment où ils n'ont plus du tout la maîtrise sur des gestes et ils commettent des fautes qui leur sont fatales, quoi, à la sortie. En fait, ils redonnent le bâton pour se faire battre, quoi. Ils donnent à Bayonne, enfin, sur ce match-là, l'occasion à Bayonne de revenir, de reprendre espoir, de marquer... Et puis après, il y a une espèce de
réveiller le public, de réveiller le stade, oui. Parce que pendant 60 minutes, le stade, il était quasiment éteint. Quoi. On entendait, pas aller vous jouer, mais bon, c'était quand même très, très tristouné dans les travaux de Jean Daugé. Hein. Et puis bon, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est parti en vrille, ça s'est un peu réveillé, oui.
Alors messieurs, il sera toujours le temps de faire le bilan et les comparatifs, notamment entre la saison guidée par John O'Gibbs et celle par Christophe Furios. Mais quand même, je vous posais cette question concernant les matchs à l'extérieur pour l'instant. Et il y aura pas, je dis pour l'instant, mais ce sera le bilan. Christophe Furios aura fait moins bien que son prédécesseur à l'extérieur.
On va rajouter la victoire en Challenge Cup à...
Tu fais bien de le noter, mais en top 14.
À Bristol.
T'as raison, Arnaud.
Il aura fait moins bien à l'extérieur, il aura fait mieux à la maison. Bon, à la sortie, ça fait une 11e place, quoi qu'il en soit. Donc,
pour parler familièrement, ça devait lui courir sur le haricot quand même, cette histoire de ne pas réussir à avoir de succès à l'extérieur. À Christophe Furios.
Comment ? J'ai pas compris la question.
Je pense que ça doit le gêner quelque part quand même, Christophe Furios.
Ah bah oui, on l'a senti.
Parce que les constats qu'il fait, c'était un peu les constats que faisait déjà John O'Gibbs à sa place. Hein, manque de constance, capacité à être discipliné dans les moments forts, manque de pragmatisme. Enfin, c'est des constats, c'est le discours que tenait John O'Gibbs déjà l'an dernier, déjà en début de saison, et qu'a tenu encore Furios depuis janvier.
C'est les mêmes constats, ils sont un peu récurrents, et c'est vrai que c'est... J'y reviens, mais c'est pas des défaites où l'équipe est moins bien.
Elle n'a pas sombré, quoi.
Dans l'engagement ou dans ce qu'elle met dans le combat. Hein.
Le constat,
c'est autre chose.
Le constat qu'a fait Christophe Furios, l'arrivée l'an prochain de Urda Pileta n'est pas étrangère au constat qu'il a dû faire, à mon avis.
Et celui dont tu parles aussi.
Et celui dont je parle. Et il l'a fait, je crois que c'est après le match de La Rochelle que ça l'a fait un peu tiquer. Et moi, je pense que dans la gestion des matchs à l'extérieur, Urda Pileta sera un plus pour l'ASM.
Et pas
seulement dans la gestion des tirs au but.
Ce qui sera aussi un gros plus, c'est s'il a un pack qui sera,
bien sûr,
qui soit beaucoup plus dominant qu'il ne l'est sur certains.
Même si je trouve pas si mal que ça.
Non, ils font pas.
D'autant que samedi, il y avait quand même, il alignait quasiment ce qu'il avait de mieux. Hein. Alors, hormis au talonnage où la réserve était malheureusement un peu faible, puisque bon, il y a que Fourcade, mais sinon, il y avait quand même une des premières fois de la saison où depuis très longtemps, il y avait quand même un effectif, une équipe et un groupe qui tenait bien la route. Quoi. Je veux dire, il y avait pas de...
Oui, qui se rapprochait de l'équipe type.
Oui, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de la dernière rencontre à domicile, sera donc face au Racing. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la fin de saison de Clermont, que ce soit à domicile, face au Stade Français ou là, face à Bayonne, même s'il y a défaite, on voit pas une équipe qui se délite et qui a abandonné le championnat avant la fin du championnat pour l'instant.
Ah non, je pense qu'il va y avoir un point d'honneur à bien terminer au Michelin, enfin il me semble. Hein,
Déjà parce que le stade sera encore plein ou pas loin d'être plein, donc parce que le dernier match de la saison, il attire toujours du monde, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats. Hein, donc déjà rien que ça provoque quand même un engouement, quoi.
Non, ils vont pas lâcher le match, hein, ça c'est clair. Hein,
Ouais.
Voilà.
Ah oui, pardon.
Il va y avoir aussi une cérémonie d'adieu, peut-être un peu longue là, cette fois-ci, parce qu'il y a quand même un paquet de joueurs sur le départ, et peut-être que tous ne seront pas honorés, parce que tous n'auront pas encore leur sort de scellé définitivement.
Ok, merci. On a fait le tour.
Bah, je pense, oui.
Pour cette question, je vous remercie. On va donc passer au top et au flop. Et je vais te demander, donc, Didier, quel est toi ton top ou un flop déjà, ou...
Ça sera un flop, c'est parti. Pour le RC Toulon qui a été obligé d'aligner une équipe très jeune pour être en accord avec la réglementation concernant les GIFT, c'est-à-dire les joueurs issus de la formation française. Ils étaient très en retard dans le nombre de GIFT. aligné depuis le début de la saison, donc pour pas avoir des points de suspension dès le début de la saison, ils ont été obligés d'aligner une équipe très jeune, et donc est arrivé ce qui devait arriver. Ils ont pris une rouste au Racing. Je pense qu'ils avaient dans l'arrière-pensée d'assurer aussi le match contre Glasgow en finale de Challenge Cup la saison prochaine, qui va leur ouvrir, qui devrait leur ouvrir en cas de victoire. Les portes de la Champions Cup, puisque bon, en top 14 ça semble très compliqué pour eux maintenant.
43-7, hein, la victoire du Racing. Ouais.
Tout à fait.
Moi, mon top, ça va être l'équipe de Perpignan, parce que je trouve que c'est une équipe qui a du cœur, qui lâche jamais rien, qui c'est un modèle de lutte pour se maintenir en top 14 tout au long de la saison. Ça avait très mal commencé pour eux, ils étaient vraiment pas bien, et c'est une équipe qui lâche jamais rien, qui a vraiment du caractère à l'image de leur entraîneur Arletaz. Ouais, c'est à l'image aussi du peuple catalan. Hein. C'est un peuple c'est une équipe qui lâche pas et qui avec des armes moindres que beaucoup d'équipes, a réussi à s'accrocher. On l'a encore vu le week-end dernier face à Toulouse, même si Toulouse est pas venu avec toutes ses armes. Mais bon, Toulouse a quand même fait un match assez consistant. Et voilà, j'avais envie d'adresser un petit salut à cette équipe de Perpignan.
Vraisemblablement Perpignan qui devrait jouer les barrages, donc
ouais,
pour se maintenir en top 14. Et là, pareil, tu n'aurais peut-être pas mis un billet de 10€ dans la saison en disant Perpignan se barragisse, quoi.
Vu le début de saison qu'ils avaient fait, où je les avais trouvés vraiment faibles en septembre, non, franchement, c'est... Ils ont fait des gros matchs chez eux. Ça, on le sait que c'est une équipe qui est costaud à Aimé Giral, mais non, ouais, j'aurais pas mis un billet.
Et toi, Christophe, top ou flop?
Et moi, c'est un top, c'est le match de clôture de la 25e journée qui a eu lieu ce dimanche soir entre Stade Français et Lyon.
Ouais.
Le diffuseur s'est souvent plaint de matchs un peu
ennuyeux,
pour ouais. pas dire autre chose, en prime time le dimanche soir. Et je pense que là, l'amateur de rugby en a eu pour son argent.
La remontada.
28-0 pour Paris à la mi-temps, 31-31 à la sortie, 8 essais. Je pense que là, c'était... Alors évidemment, ça manquait de cohérence sportive, selon qu'on soit parisien ou lyonnais, selon les mi-temps qu'on a vus. Mais au moins, pour le diffuseur et puis pour les amateurs et les passionnés de rugby, c'était un match intéressant et vivant à suivre.
Effectivement, c'était un très beau match. Le Stade Français, Lyon, 31 partout. Merci messieurs, on va juste se quitter, mais avant... Vous le savez, le traditionnel quiz qui va porter sur les matchs à l'extérieur. Mais pour ça, il va falloir que je retrouve j'ai retrouvé ma fiche.
C'est mieux.
Quel est le match? Attention, cette question rapidité, parce que on va parler des matchs à l'extérieur disputés par l'ASM cette saison.
Ah, d'accord.
Quel est le match où l'ASM a marqué le plus de points à l'extérieur cette saison?
Toulon.
Combien?
Oh, bien joué.
Je suis 31
ans. 29.
29, bien joué Christophe. Le point est pour Didier, bien sûr, oui. C'est Didier qui a trouvé Toulon. 29 à Toulon. Quel est le match où Clermont a encaissé le plus de points à l'extérieur cette saison?
Racing.
Il y en a un deuxième.
Ah, c'est égalité?
Ouais.
Racing et...
Lyon.
Non.
Toulouse. Non.
Oui, c'est ça. Toulouse Racing, le point pour Christophe. 46 points. Racing, c'est un 46-12 et Toulouse, c'est 46-10. Donc c'était une plus grosse défaite, on va dire, à Toulouse. Le match où Clermont a marqué le moins de points à l'extérieur cette saison?
Lyon.
Ni l'un ni l'autre.
Brive.
Non.
Ah non, c'est où que...
Montpellier.
Montpellier. 6 points seulement marqués par les Clermontois.
Ah oui,
c'est un grand match encore.
Si tu y étais, mais tu t'es pas tout à fait réveillé. 6 points marqués. Où le match t'a considérablement assoupi. Enfin, bref. Meilleure équipe du championnat à l'extérieur cette saison du top 14.
Toulouse.
Non.
Lyon.
Non.
Stade français.
Non.
Ah bah, La Rochelle.
La Rochelle, oui. La Rochelle. C'est pour toi, le point, Arnaud. Effectivement, pour l'instant, c'est l'équipe qui a gagné 7 victoires et 6 défaites quand même en 13 matchs. Un bilan positif pour les Rochelais. Ce qui est,
le record de l'ASM n'est pas battu.
Non, mais qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal
Même. Je crois que l'ASM, c'est 9 victoires, je crois.
Ouais.
Il y a 5-6 saisons.
On vérifiera ça.
Ouais.
On vérifiera ça.
J'ai marqué un moment ça, mais je me souviens plus. Mais je crois que c'est 8 ou 9, en tout cas.
On vérifie, on vous le met dans l'article sur le site pour le record des Clermontois. Et pour terminer, dernière question. La plus mauvaise équipe à l'extérieur cette saison.
On l'a
Perpignan.
Dit tout à l'heure.
Perpignan, oui.
Qui l'a dit en
Perpignan.
Premier C'est toi. Victoire pour Christophe. Victoire de rapidité. Alors Carnot a dit, on l'a dit tout à l'heure.
Voilà. c'est pas une réponse.
C'est pas une réponse.
Voilà. Perpignan avec 6 points seulement et ferme la marche du top 14 à l'extérieur. L'avant-dernière, vous savez, non?
Bayonne.
Ouais, c'est Bayonne, effectivement.
On l'a dit tout à l'heure.
Bien mieux classé à domicile, effectivement, pour les Bayonnais. Et puis Clermont, donc, avec seulement 9 points. Et juste derrière Castres, qui a 10 points. Et Pau. À noter quand même que Brive, qui est relégué, est 9e de ce classement à l'extérieur avec 13 points.
Mais ils ont perdu combien de fois chez eux?
Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont quand même 3 victoires à l'extérieur. C'est 3 fois plus que Clermont au final, hein, pour les brivistes à l'extérieur. En revanche, à domicile.
Ouais, enfin, je pense qu'ils inverseraient le bilan et se maintenir en top 14. Hein.
Aucun problème. Et dans ces cas-là, on aurait vraisemblablement encore un derby la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas. Les brivistes à domicile, c'est seulement 4 victoires.
Ils en auront un derby, les Corriac.
Voilà, pas avec Clermont.
Et on n'aurait qu'à dire que contre Lyon, c'est un derby.
Voilà, on va. Ouais. Très bien. Et ensuite, on se posera la question de savoir pour le prochain podcast, celui qui sera demain, le Clermont Football Club, savoir si le derby contre Lyon est le nouveau derby.
Ah bah, voilà.
Comme ça, on pourra continuer à parler de derby. Merci, messieurs. On se retrouve très vite pour débriefer la fin de saison de l'ASM Clermont. Bonne semaine à vous. Ciao.
Ciao.
Salut.